Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel, studio de Chartres. L'or des curieux, une émission conçue, écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Il y a 2 mois de cela, se refermait l'édition 2019 du concours international d'orgue de Chartres. L'orgue, eh bien il en sera question aujourd'hui, mais de l'orgue hors liturgie, projeté dans la stricte et pure science de musique. Nous amorcerons donc un tour d'horizon des champs d'influence et d'activité de l'orgue dans divers territoires musicaux. Le sujet et ses ramifications étant vastes, si ce n'est infini, j'y reviendrai forcément, dans plusieurs émissions à venir, cette année ou bien la prochaine. Heureux pour aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus, et extrêmement reconnaissant à vous de me faire l'honneur et la bonté d'écouter mon émission. Alors, avant toute chose, je vous adresse à toutes et tous mon plus chaleureux bonjour. Pour le musicien que je suis, venir m'établir à Chartres sous-entendait forcément faire un pas sensible dans la direction du buffet du grand orgue de la cathédrale. Saisir donc l'occasion de vivre dans la proximité immédiate du cœur de cette musique. Mon amour de la musique d'orgue a commencé, comme pour la plupart d'entre nous, je pense, à la messe des dimanches, et pour être précis, au moment de la communion et celui qu'il suit immédiatement. Ce moment de toute intimité où, après que nous ayons reçu le pain, l'orgue nous tient en recueillement. Cet instant où l'orgue se fait plus retenu et murmure son chant, où il emploie ses registrations les plus douces, où la musique nous semble fine comme du verre, aidant ainsi à plus d'intériorité, de réceptivité en nous. Cet instant suspendu où est à l'œuvre en nous ce mélange d'un bouleversement total et d'une paix profonde. Et ce moment particulier décida de mon amour pour cet instrument, cette musique, cette parole. De l'orgue, je n'aurais pas la prétention de me penser un érudit. Je n'en suis qu'un amoureux, y compris avec cette nuance d'excès et de partialité qui peut être le propre de ceux qui aiment. En tant que musicien, compositeur, j'œuvrais dans la musique de film, télévision, cinéma, musique pour le documentaire, un peu de musique de scène aussi au théâtre, diverses choses. J'ai connu une période beaucoup moins encadrée qu'elle ne l'est actuellement, avec des moyens rudimentaires et une vie improvisée, toujours en bordure de précipice. J'ai eu le culot, pour une musique de film, d'utiliser l'orgue moi-même. Le film s'intitulait « La Terre promise ». Le réalisateur se nommait Emmanuel Parot. Très beau film, moyen-métrage dont les personnages principaux étaient un groupe d'enfants, avec leurs affinités naissantes, leurs rejets, leurs peurs paniques, que personnifiait un personnage d'adulte, sorte de démiurge ivre de pouvoir et de domination. Avant que je commence de travailler à la composition de cette musique, le réalisateur tient absolument à ce que j'écoute une musique et me dit « Voici exactement ce que je veux que tu amènes au film, cette sorte d'atmosphère. » Nous écoutons. La musique était « La flûte enchantée de Mozart ». Léger problème. Il se trouve que je déteste le cher Wolfgang et toute la bonbonnerie viennoise avec lui. Bien entendu, je n'en laisse rien voir. Et puis ce jour-là, je n'avais aucune envie de ressortir ma tirade anti-Mozart dont je commençais à me fatiguer. Je me souvenais de ma grand-mère lorsqu'elle tentait de faire mon éducation à table. « Mon petit, me disait-elle, si tu n'aimes pas le sucre et que l'on t'en sert, ôte-le discrètement de ton bol et cache-le dans ta manche. Bois ton chocolat poliment et proprement, puis prends congé. Tu jetteras le sucre quand tu seras de retour à la maison. » À la fin de la flûte enchantée, donc, je dis au réalisateur « Bien sûr, aucun problème, je vois tout à fait ce que tu attends de moi. » Et je rentre chez moi en me maudissant. Et je reviens quelques jours plus tard, ayant composé les seules musiques qui me paraissaient convenir à la scène dans son entier, à savoir 3 thèmes pour l'orgue seul. Nous écoutons. Le réalisateur me fixe. Un instant se passe, puis il me dit « Bon, c'est pas ce que je t'avais demandé, mais alors pas du tout. Problème. Oui, problème. Parce que ça colle au petit poil ton truc quand même. Allez, ok, je prends. » Après cela, J'avais rétrospectivement un peu honte d'avoir entraîné l'orgue sur la pente de la fiction filmée, mais simultanément, je ne pouvais que constater l'immense capacité de l'orgue à sortir du cadre de sa juridiction première. Il existait donc bel et bien un orgue à direction du monde, du seul monde des hommes. Depuis l'aube de son avènement, l'orgue a reçu mission d'être subordonné à la voix de Dieu sur terre, donc de régler soniquement les instants du culte. J'avoue ici n'avoir jamais cru en l'idée que la musique ne doive être assignée qu'au seul culte, au risque d'être vaine. À mon sens, la musique n'a pas de définition religieuse. Je crois en revanche à ce que l'on pourrait nommer l'univers du sacré en musique. Le mot « univers » disant ici que la musique sacrée est plus qu'une école, plus qu'un style porté par une entité, mais un phénomène lié à l'apparition de Dieu à celles et ceux d'entre nous qui sont croyants. Et de cet univers du sacré est née une musique depuis Pergolèse, Frescobaldi, Buxtehude, Bach, musique qui a non seulement mené l'office, mais encore a su toucher les cœurs, les esprits et au-delà, la sensibilité de l'humanité entière, la musique de Bach, musique de la liturgie s'il en est, a franchi les portes de l'Église pour s'en aller visiter le monde, l'émouvoir, le galvaniser, en devenir l'une des représentations essentielles. Les premières notes de la toccata en ré sont une incarnation de l'humanité, comme le sont tous les lieux sacrés du monde, les pyramides et tous les lieux d'histoire. L'univers du sacré a donc bel et bien touché et ému hors des seuls cercles du religieux. Et je fais partie de ceux et celles qui tendraient plutôt à s'en réjouir. Je n'ai pas l'âme d'un séparatiste, et il me paraît que vouloir faire du religieux une forteresse inaccessible, c'est mettre la foi en guerre avec le monde, refuser la conversion possible et vouloir l'extinction lente de la foi. Le croyant est au milieu du monde et le monde l'accompagne. Ainsi, la musique qu'il produit rencontre le monde et naturellement s'adresse à lui tout autant. Jean Guillou, qui nous a quittés il y a peu, soutenait l'idée que le grand orgue devait s'étendre au-delà de la seule référence au sacré et embrasser tout le spectre de la musique. Les tableaux d'une exposition de Moussorgski qu'il transcrivit pour l'orgue me paraissent déjà lui donner raison. Dans toute son œuvre de compositeur et d'improvisateur, Jean Guillou laissait entrer le monde, l'aujourd'hui, l'instant même. Et j'aimerais qu'en son souvenir, nous réécoutions un peu de cette merveille d'œuvre qu'il consacra à l'aventure spatiale et à tout l'équipage d'Apollo 8, la fameuse mission de 1969, puisqu'on emploie aussi le mot de mission ici, missionnaire de l'espace. Extrait donc de Vision cosmique de Jean Guillou, nous écoutons le mouvement intitulé « Orbite », interprété par le compositeur lui-même aux grandes orgues de Saint-Eustache à Paris, Jean Guillou.
Thank you.
il arriva que l'orgue, parfois, vint à un compositeur comme opportunité de coloration nouvelle, d'une forme autre d'écriture, et qu'à ce titre, celui-ci se montre intéressé, puis se laisse tenter par la proposition faite de composer pour l'instrument. Georgi Ligeti avait un passif avec l'orgue. Il en avait déjà mené de sérieuses études dès les années 1940 au conservatoire en Hongrie. Aussi, l'idée d'écrire pour l'orgue avait toujours été présente et vivace en lui. Et lorsqu'il lui fut passé commande d'œuvre pour l'instrument, le résultat fut d'envergure, de haute volée. Son œuvre d'orgue, si elle n'est pas quantitativement colossale, n'en est pas moins impressionnante par son contenu, sa nature, son tempérament. C'est une musique intense, bouillonnante, totalement incarnée. Parmi tous les compositeurs contemporains ayant utilisé l'orgue, Ligeti me semble être celui qui annonce et affirme l'extension du champ de la parole pour l'orgue. Ce qu'il envisage, c'est l'instrument orgue, ses tonalités, ses registrations, ses couleurs, ses volumes. L'orgue lui sera un moyen déterminant à projeter plus loin encore sa si singulière musique. Et aucune mention de la liturgie ici. Ligeti exposera même, par l'intermédiaire de l'orgue, beaucoup de ses douleurs les plus intimes, touchant à la vie qu'il connut dans son pays soumis à la dictature, l'orgue alors donnant à sa voix une dimension incroyable, une ampleur démultipliée par de véritables déflagrations d'accords lourds et insistants, comme un bombardement. Ici, Ligeti jettera toute sa douleur et sa colère, le plus étonnant étant qu'elle émane d'un homme aussi doux et réservé, lui qui n'était que murmure. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous donner à entendre le quart d'heure que dure son Volumina. Nous écouterons une pièce peut-être plus rassérénée de lui. Elle s'intitule « Couler ». de Tournemire à Vidor, Vierne, Duruflé, Dupré, Alain et tant d'autres jusqu'à Messiaen, on peut affirmer que l'orgue contemporain fut orgue chrétien, orgue catholique, et que la chrétienté s'est ici montrée incroyablement moderne et plus encore à l'avant-garde de la musique. De quel instrument aura-t-on tiré autant que du grand orgue pendant le XXe siècle? En regard de l'orgue, n'importe quel clavier électronique d'aujourd'hui est d'une hallucinante pauvreté de moyens et d'expression. L'étendue de l'orgue, son chant, quelle que soit la façon dont on écrit le mot chant, son chant est une totalité. Oui, l'orgue est l'instrument total. Et on se doit de le connaître dans son entier, toutes ses voix, toutes ses nuances, tous ses caractères, et connaître qu'ils sont indissociables les uns des autres. L'orgue peut figurer un monde qui s'écroule, comme la plus aimante des voix. L'orgue va du cataclysme à l'imperceptible et même au-delà. Je me souviens du jour où j'ai entendu pour la première fois la musique de Messiaen. C'était à Notre-Dame de Paris, où j'allais, il y a ça un temps certain, les jeudis après-midi et dimanche, écouter le grand orgue. Petite parenthèse au passage, j'étais un familier de ces séances d'orgue à Notre-Dame. Un autre était Jean-Yann, figurez-vous. Oui, je parle bien du Jean-Yann, grande gueule, pourfendeur de tout et du reste, jamais content de rien, râleur patenté, bouffe curé comme il se doit, et illustrant à la perfection ce précepte de Francis Blanche. Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir mauvais goût, encore faut-il savoir être parfaitement odieux. Eh bien, Jean-Yann, ce Jean-Yann-là, figurez-vous, et il faudrait être bien peu connaisseur de l'âme humaine pour ne pas s'en douter un peu, était un grand et sincère amoureux de musique d'orgue, et assez bon connaisseur, je crois. Fin de la parenthèse. L'après-midi, donc, où Messiaen fut joué, le concert se passe, et j'éprouve ce qu'ont éprouvé, je pense, et dont se souviennent celles et ceux qui connurent cela, à savoir un bouleversement total, tant par la musique elle-même que par l'ampleur de la réaction qu'elle suscite. Mais je n'ai pas le temps de me laisser aller à mes sensations. Quelqu'un m'agrippe le bras, sèchement, violemment. Je me retourne et je vois ma voisine, le visage écarlate, rempli de larmes. Elle me dit « Pardon, monsieur, mais dites-moi ce qui m'arrive. Parlez-moi, je crois bien que le monde vient de s'écrouler et qu'il n'y a plus personne de vivant au dehors. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi, dites-moi. » Alors, avec quelques voisins de travée, nous avons fait ce que nous avons pu. Nous lui avons parlé calmement d'Olivier Messiaen, de qui il était, ce que nous en savions du moins, de son œuvre, et nous lui avons donné des pistes pour l'écouter, tout cela en tentant de faire qu'elle se sente progressivement mieux, ce qui a semblé marcher. Je me souviens lui avoir conseillé d'acheter l'œuvre entendue ce jour et de l'écouter beaucoup jusqu'à ce qu'elle s'en rende familière, qu'elle puisse y revenir, tout entendre, changer son bouleversement en compréhension et qu'ainsi cette œuvre cesse de devenir un fantôme en elle. Ça n'est jamais le rôle de la musique. J'ai eu de nombreuses fois la preuve par le vrai que le pouvoir de la musique ne doit pas être sous-estimé, pris à la légère. Et le pouvoir d'un orgue est bien réel. Il existe comme existe le pouvoir de l'eau ou le pouvoir du feu. Il y a l'eau d'une douce petite rivière qui chante et qui vous charme. Et il y a l'eau des tsunamis qui détruisent tout. Il y a le feu providentiel qui vous sauve des froidures de l'hiver et le feu qui va dévorer les forêts. L'orgue rejoint en tout point ces forces de la vie qui vous font naître ou bien vous détruisent. Il est fondé de penser que l'orgue est plus qu'un instrument. Il est une synthèse de toutes les forces vitales et certainement la plus plausible des ambassades du royaume des cieux de ce côté-ci de l'horizon. Et c'est à ce titre précisément qu'il me paraît n'avoir rien à redouter de voir le monde s'approcher de lui. Il y a dans la musique actuelle un musicien qui me paraît utiliser l'orgue en préservant la dimension véritable. Il ne joue pas uniquement de l'orgue, il pratique également les claviers électroniques et le piano, mais il sollicite majoritairement l'orgue. Il s'agit du musicien allemand Peter Michael Hammel. Je ne vous en dis pas davantage sur lui, mais pour l'instant, écoutons-le sans a priori, sans que rien de trop prédéterminé ne vienne altérer cette première écoute. Je vous propose donc un extrait du premier mouvement de l'œuvre intitulée « Bardo » de et par Peter Michael Hammel. « À présent, un autre exemple d'orgue profane avec Moondog, musicien que certains font l'erreur de prendre de haut et de mésestimer, au titre d'une fantaisie certaine, d'une imprévisibilité totale et d'une grande étrangeté de l'homme. Moondog aura mené sa vie aux marges du monde et tout pareillement aux marges de la musique. Il fut reconnu à la fois par ceux qui professent du goût pour l'expérimentation et la liberté en musique, et par le public d'une certaine pop musique à tête chercheuse, et par celui d'une certaine musique contemporaine, point trop formaliste. Moondog était un musicien et un esprit libre, le seul à ma connaissance à avoir publié des enregistrements live captés en pleine rue. Peut-être effectivement, sa loufoquerie parfois a-t-elle pu jouer contre lui, gêné à une reconnaissance plus grande de son œuvre. Et puis quoi ? L'homme était libre. Et puis n'oublions pas, la musique est en chacun de nous, et elle est toujours prête à s'écouler des mains et des esprits les plus divers et les plus inattendus. Alors écoutons tout simplement une des six jolies petites perles que le grand orgue inspira à ce voyageur intermittent de la clair-conscience, ce passager occasionnel et insaisissable d'un carrosse brinque-ballant en route pour Dieu sait où. Pour l'ordre des curieux peut-être. Alors soyez le bienvenu ici, Moondog. Thank you. la lumière de tout ce que nous venons d'écouter, peut-être pourrait-on dire que face à l'orgue, ces musiciens ont exprimé d'eux-mêmes des parts intimes, des versants moins démonstratifs et peut-être plus vrais, qu'ils auront momentanément écarté toute trace d'orgueil pour se diriger vers ce qui tiendrait plutôt de l'aveu, de la confession en musique. La parole semble s'y faire plus intérieure. Ne faut-il pas y voir le besoin pour tout un chacun d'une référence haute et besoin de s'exposer à elle, à ses jugements, comme à son habilitation à nous porter secours? Et n'est-ce pas là le signe que tout un chacun est en grand besoin de plus de paix et plus de recueillement? Depuis bon nombre d'années déjà, le nom de Thierry Escaich est venu s'ajouter à ceux de ses plus glorieux antécédents. Sa musique, que j'avoue, je connais encore mal, a cependant fait plus que piquer ma curiosité. D'abord parce qu'il me semble être une forme assez inédite de classicisme, dénoncée de la règle ancienne, mais projetée dans un geste purement contemporain, qu'il a l'immense talent de savoir rendre clair, limpide. Il transmet une impression d'adéquation parfaite, que les choses se rejoignent et s'assemblent à la perfection par-delà les époques. L'architecture de sa musique est clairement énoncée, les lignes en soulignant chaque mouvement intérieur, chaque harmonie, la progression du chant, et la musique en retour vient magnifier le dessin des choses. Musique de pleine maîtrise, sereine dans ses fondements, musique qui, par la mesure dans l'émotion et la maîtrise du moindre de ses arguments, m'a évoqué plus d'une fois la musique contemporaine du Japon. Cette sensation que le compositeur a retouché, mesuré et vérifié sans fin chaque élément de son œuvre avant que de s'autoriser à faire irruption en nous. Thierry Escaich est une personnalité musicale extrêmement raffinée, multiple et rétive au cloisonnement. Pour nous en convaincre, écoutons un extrait d'un moment musical bien particulier dans son parcours, à savoir un duo avec son ami, l'accordéoniste Richard Galliano. Oui, Thierry Escaich a osé. Et Richard Galliano ne s'est pas fait prier non plus. Ils l'ont fait. Un duo grand orgue-accordéon. Et le grand orgue y jubile. Et tout lui réussit. Astor Piazzolla et même Gus Wieser. Cet enregistrement est une réelle surprise. Mais plus encore, la preuve que le grand orgue se joue des limites de style, des limitations supposées de telle ou telle musique en regard de telle autre. Les préjugés tombent les uns après les autres. Alors si quelques-uns d'entre vous ont encore quelques doutes sur la validité de cette alliance, le mieux est que nous écoutons immédiatement Thierry Escaich et Richard Galliano. J'ai choisi pour vous ce vocalise, qui est le numéro 14 des 14 romances opus 34 de Sergueï Rachmaninov, sur laquelle je me verrais tout à fait communier, par exemple. Thierry Escaich et Richard Galliano. Au revoir.